Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Tu n'es pas seul, parle-en, c'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les 98 FM en Ile-de-France et en DAB+. Et toujours sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli. Il a oublié, ça y est, IDFM Radio.
Ah bah oui, bah je t'écoutais avec grande attention.
Big Bang Station, c'est depuis 28 ans un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs histoire, juridique, bien-être, musique, télé, culture, pop collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de suicide. Petit Manu nous parlera de l'évolution du regard concernant le suicide.
Bonjour à tous. Évidemment, parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même sérieux. Faut tenir au courant. Et bah, je vous ferai un bon résumé. Bonjour à tous. Et au revoir, très content de vous retrouver.
Marie-Christine abordera la législation française sur le suicide.
Bonjour à tous. Comment la loi encadre le suicide? Je vais vous l'expliquer.
Quels sont les signes qui alertent sur un risque suicidaire imminent? Comment peut-on, en tant que proche, repérer les signaux d'alerte? Le docteur Liova Yon, psychiatre à Paris, répondra à nos questions. Briser le silence autour du suicide, c'est la chronique de Ponari.
Salut Didier, salut à tous. J'aborde avec douceur et lucidité le sujet sensible du suicide, car derrière les sourires, il y a parfois des souffrances invisibles. Parce qu'on ne parle pas assez de ces douleurs silencieuses ni de l'importance de demander de l'aide, à travers des mots d'écoute derrière les chiffres, cette chronique est une invitation à oser parler, à se soutenir et à créer un espace de bienveillance autour de la santé mentale. A tout de suite.
Et pour notre page culture, Kevin nous fera jouer à son quiz des chansons de prévention contre le suicide.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Et oui, parce que les artistes sont là pour faire passer des messages, notamment contre le suicide. Un sujet sensible qui leur parle profondément, nous allons les écouter tout à l'heure.
La représentation du suicide dans les séries, comment les fictions abordent-elles ce sujet délicat? Stanny répondra à la question fin d'émission. Enfin, Eric nous parlera de représentation du suicide dans la culture pop.
Hello Didier, hello à tous. Aujourd'hui, pour notre thématique, je vous parle de suicide dans la pop culture en évoquant le seppuku, les kamikazes, avec différents animés, films et BD à l'appui.
Et l'émission est réalisée par Didier,
qui contrôle tout, qui gère, très professionnel. Didier.
Attends, c'est collectivement, musicalement.
C'est la rentrée.
Ça l'était déjà la semaine dernière.
Ah oui,
ça l'est toujours.
C'est vrai.
Toujours, évidemment.
On est dans le même mood.
Ouais.
Chaque année, le suicide fait environ 700 000 victimes dans le monde, selon l'Organisation Mondiale de la Santé. En France, ce sont près de 9 000 personnes qui mettent fin à leur jour, ce qui en fait la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Le suicide est une réalité humaine ancienne, présente dans presque toutes les cultures et époques. Pourtant, la manière dont les sociétés ont tenté de prévenir ce geste désespéré a beaucoup évolué au fil des siècles, passant d'approches parfois punitives à des stratégies modernes fondées sur la compréhension psychologique et sociale. Retour sur cette évolution avec Petit Manu.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama, Donald Trump, Hillary Clinton, David Bouillet, Joe Cocker, Justine Tiberlin, Lady Dada, Sakina, oui, Kendrick.
Vous trouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux, ça. Non.
Tous les quoi?
Qu'est-ce qui concerne le suicide? Comme tu dis très bien, Didier, dans les nombreuses sociétés, notamment en Europe jusqu'au 19e siècle, le suicide était sévèrement condamné, souvent puni par la loi, même après la mort, des confiscations de biens, des refus d'enterrements religieux, etc., etc. Cette cimentation renforçait l'isolement des personnes qui en souffrent, comme tu as très bien dit, même si dans certaines cultures, le suicide ne pouvait pas être perçu comme un acte honorable ou une forme de protestation, dans la majorité des cas, il reste un sujet tabou. J'ai l'impression qu'on ne dit pas, c'est un peu, on en parle pas, quoi. Voilà.
Bah, la chronique de Ponari reviendra.
Et exactement, elle va pouvoir bien développer. Et Ponari, on te fait entièrement confiance. Après l'émergence de la psychiatrie au 19e siècle, le suicide commence à être considéré comme un symptôme, une maladie mentale. Parce que les gens n'étaient pas vraiment à comprendre à ce moment-là, puis même par la suite. Les médecins cherchent alors à soigner la dépression, la schizophrénie ou d'autres troubles pouvant mener au suicide. Les premiers hôpitaux psychiatriques ou asiles souffrent ce changement au regard qui marque un tournant important. Le suicide n'est pas seulement un acte volontaire ou moralement condamnable, mais un problème de santé, parce que c'est la façon comme on voit les choses, on analyse. Au XXe siècle, les avancées psychologiques, notamment avec la découverte de la dépression ou de l'importance du soutien social, donnent lieu à des campagnes ou à des lignes d'écoute téléphonique dédiées au suicide et créées comme les premiers services aux aides aux personnes en crise. C'est-à-dire que les gens qui vont mal, on peut téléphoner, on peut les rassurer, il y a des voix comme ça. Des associations prévenant apparaissent avec pour objectif d'informer et de stigmatiser et offrir un soutien. C'est-à-dire qu'on peut appeler, des fois c'est des téléphones, et c'est des gens neutres qui décident d'aider les gens souffrants, et ça c'est une bonne chose, il faut le savoir.
Non, merci petit
bah, j'en prie, je t'en prie avec grand plaisir. Pour les gens qui ont des problèmes, et ben, c'est bien de le savoir, qu'ils retrouvent une certaine confiance en eux.
La France reste l'un des pays européens avec les taux de suicide les plus élevés. Le suicide est-il un droit de l'homme? C'est la question en apparence iconoclaste que posait le philosophe Jacques Ricot dans un petit ouvrage paru en 2015. La loi encadre le suicide pour protéger les vulnérables et éviter les abus, interdisant incitation et aide et garantissant un accompagnement digne en fin de vie, comme va nous le rappeler Marie-Christine. Loi, réglementation, Marie-Christine vous dit tout.
Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas faire, oh là là, entre nos connaissances et la réalité.
Vous êtes vous demandé quels codes garantissent la qualité et la sécurité de ces délits incontournables? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les règles, la réglementation.
On écoute toujours Marie-Christine avec la plus grande attention. Oh là là, l'expérience de la vie, la maturité.
Alors, il faut savoir qu'en France, le suicide n'est pas une infraction pénale. Il n'existe donc pas de droit au suicide, reconnu par la loi. Mais la tentative de suicide n'est pas punie ni entraîne aucune sanction judiciaire depuis le code de Napoléon en 1811. Cela signifie que la société n'attache pas de réprobation pénale à l'acte de se donner la mort, mais ne l'érige pas non plus en droit positif. Ce qui veut dire que la liberté de se suicider n'est pas explicitement garantie par la loi. En revanche, la législation encadre sérieusement l'intervention de tiers. L'infraction ou provocation du suicide, il est interdit de pousser, d'inciter ou de provoquer quelqu'un à se suicider. Ce délit est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et de 75 000 euros si la victime est mineure de moins de 15 ans. L'aide active au suicide, c'est un débat actuellement. Fournir une aide matérielle et logistique à une personne pour qu'elle se suicide est assimilé à une infraction pénale. C'est-à-dire, c'est requalifié en meurtre ou en empoisonnement, même si la victime est consentante. Il y a eu plusieurs procès comme ça. La propagande et la publicité en faveur du suicide est interdite. Toute communication visant à promouvoir des moyens de se donner la mort est également interdite et sanctionnée. Sur le plan international, maintenant, la situation varie. Certains pays européens, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Espagne, ont légalisé et dépénalisé l'euthanasie ou le suicide assisté sous conditions strictes. En France, le débat est en cours, mais ni l'euthanasie active ni le suicide assisté sont légaux à ce jour. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît que la question du suicide relève du respect de la vie privée, mais elle laisse aux États une large marge d'appréciation pour encadrer ou non l'aide à mourir sous réserve de garanties pour la volonté libre et éclairée de la personne concernée. Il ne faut pas oublier qu'il y a un numéro national de prévention du suicide qui est le 31-14. Je vous souhaite une bonne continuation et une belle vie.
Merci Marie-Christine. Alors le 31-14, hein, tu viens d'en parler, hein, on le répète, le numéro national de prévention suicide. Depuis son lancement en octobre 2021, ce numéro reçoit chaque jour environ 800 appels, d'après France Bleu. Infirmiers, psychologues et psychiatres sont à l'écoute au sein de 17 centres régionaux, comme le docteur Yon, médecin chef de service à l'hôpital Sainte-Anne et coordinateur du 31-14 à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les personnes qui font appel à vous en général? C'est plutôt des jeunes, des personnes âgées?
Alors, En la matière, vraiment, entre 15 et 75 ans, tout le monde appelle. Ce qui est plus compliqué, c'est pour toucher les moins de 15 ans, qui ont plus de difficultés à se servir d'un téléphone pour passer un coup de téléphone. Et puis, les plus de 75 ans, pour des questions, je dirais, plus de maîtrise de la technologie. Mais sinon, ça touche vraiment très largement tous les âges.
Et comment se déroule une conversation avec une personne en détresse?
Alors, c'est pas une conversation comme on pourrait l'entendre. Hein, c'est vraiment un entretien, une consultation spécialisée. Ce sont des professionnels qui répondent au 3114 et donc ils sont formés à l'évaluation du risque suicidaire. Ce sont des formations très spécifiques qui permettent, de la même manière, je dirais, qu'un dermatologue examine un grain de beauté, par exemple, et bien avec un certain nombre de critères à évaluer au cours de l'échange avec la personne appelant, qui permettent d'évaluer le degré de risque de passage à l'acte suicidaire.
Alors, quels sont les signes qui vous alertent sur un risque suicidaire imminent?
Alors, c'est très difficile de répondre à cette question, puisque c'est un ensemble de symptômes, mais je dirais que des idées suicidaires envahissantes avec des projets de passage à l'acte qui sont assez précis, par exemple, sont des éléments qui sont susceptibles d'inquiéter les répondants professionnels du 3114, mais également l'existence d'un trouble mental qui est connu.
Et comment vous orientez les personnes vers des soins ou du soutien extérieur?
Alors, l'évaluation spécialisée dont on parlait nous permet à l'issue de se faire une idée du degré d'urgence. Est-ce qu'il y a lieu d'orienter la personne vers son médecin généraliste, vers son psychologue, vers son psychiatre traitant en consultation externe? Est-ce qu'il y a lieu d'envisager une consultation d'urgence ou bien parfois, c'est assez rare, d'envoyer les secours comme le SAMU ou les pompiers, par exemple?
Et en tant que proche, c'est très difficile de repérer les signaux d'alerte. On peut quand même en repérer certains parce que souvent on dit que la veille, l'heure d'avant, tout allait bien et rigolait.
Non, alors ça, c'est ce qui peut-être se dit, mais en réalité, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui peuvent inquiéter l'entourage. L'entourage ne peut pas réaliser une évaluation du risque suicidaire comme un professionnel, mais peut-être sensibiliser à la modification de l'état psychique, à la modification du comportement, l'arrêt d'un traitement lorsqu'il y a une maladie qui est connue et traitée. Ce sont des petites choses comme ça qui peuvent aider l'entourage à alerter eux-mêmes, par exemple le 3114, qui s'adresse aussi aux personnes de l'entourage pour leur prodiguer des conseils, pour venir en aide à la personne dont ils se soucient.
Alors, vous pensez que le suicide devient moins tabou, du moins en France?
D'une manière générale, il y a une préoccupation croissante et une déstigmatisation croissante de tout ce qui concerne la santé mentale depuis maintenant plusieurs années. Nous œuvrons pour cela au quotidien, nous dans les hôpitaux, dans les centres médico-psychologiques, dans les cabinets. En revanche, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Ça reste des sujets qui sont assez stigmatisés. Les comportements suicidaires, comme les troubles mentaux, je dirais de manière plus générale. Il y a encore du travail.
Que pensez-vous de la manière dont les médias parlent du suicide? Est-ce que ça a une influence?
Depuis quelques années, maintenant, l'Organisation mondiale de la santé a publié des recommandations à usage des journalistes, des médias, puisqu'il a été montré par les publications scientifiques que la manière avec laquelle les médias sont susceptibles de rendre compte du suicide de quelqu'un de connu, un homme politique, un chanteur, une star du cinéma, peut avoir des répercussions négatives si on ne suit pas un certain nombre de recommandations. À l'inverse, il a été aussi montré que si on le fait de manière favorable, en respectant un certain nombre de critères, eh bien on peut aider à la prévention du suicide, ce qu'on appelle l'effet Papageno.
D'accord. Et selon vous, l'État, quel rôle devrait-il jouer dans la prévention du suicide?
Alors, l'État joue déjà un grand rôle dans la prévention du suicide. En France, il y a depuis maintenant 2018 une stratégie nationale multimodale de prévention du suicide. En France, il y a vraiment une préoccupation de santé publique autour des comportements suicidaires. Et il y a maintenant tout un tas de mesures qui sont mises en œuvre ou en train d'être consolidées pour lutter contre les comportements suicidaires. C'est évidemment à l'État d'assurer un rôle central et notamment dans l'offre de soins psychiatriques publics. Et en la matière, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour redoter les hôpitaux de médecins, d'infirmiers, ainsi que les CMP pour pouvoir traiter les troubles mentaux qui font partie des facteurs de risque de comportement suicidaire parmi les plus importants.
Merci docteur Yon, médecin, chef de service à l'hôpital Sainte-Anne et coordinateur du 3114 à Paris.
Merci.
Le suicide demeure l'une des principales causes de mortalité évitable en France avec un taux de 13,3 pour 100 000 habitants. Ce chiffre, bien que préoccupant, ne reflète qu'une partie de la réalité car les tentatives de suicide sont bien plus nombreuses. En 2023, 91 162 hospitalisations pour gestes auto-infligés ont été enregistrées, incluant tentatives de suicide et automutilation. Selon un baromètre de Santé publique France, 4,2% des personnes âgées de 18 à 85 ans ont pensé au suicide au cours des 12 derniers mois, mais près de la moitié d'entre elles ne l'ont partagé avec personne. Ce silence lourd de souffrance empêche l'accès à l'aide et à la prévention. Le psychiatre Charles-Édouard Notre-Dame a dit « Parler, c'est déjà commencer à guérir ». Parfois, un mot, une voix, une présence peuvent raviver la lumière là où tout semble sombre, comme va nous l'expliquer Ponari. Et retrouver la chronique bien-être.
Bah de Ponari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle ne voit, on est rempli d'émotions, les yeux, on est capté sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même ?
Et même des fois, on a failli pleurer d'émotion.
La chronique bien-être de Ponari.
Parlons de ce sujet grave, un sujet qu'on évite souvent par peur de mal faire ou de mal dire. Le suicide, rien que ce mot fait frissonner, il dérange, il gêne, mais c'est précisément pour cette raison qu'il est urgent d'en parler. Car derrière ce mot, il y a des vies, des âmes, des souffrances silencieuses. Selon l'OMS, une personne se donne la mort toutes les 40 minutes dans le monde. Selon Wikipédia, plus de 70% des personnes qui envisagent de mettre fin à leur jour n'en parlent à personne, comme tu le disais Didier, par faute de soutien ou par peur. Ces chiffres ne sont pas là pour choquer. Ils sont là pour réveiller notre empathie collective, car parfois, le simple fait d'oser parler, de se sentir écouté, peut changer une trajectoire, voire une vie entière. 5 causes principales qui poussent à penser au suicide. Les troubles mentaux, comme l'évoquait le docteur Yon, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, etc. Selon le journal The Economic Times, dans 80 à 90% des suicides, une maladie mentale est présente, notamment la dépression majeure, dans 40 à 50%, et les troubles bipolaires ou de la personnalité dite borderline. Il y a aussi les abus de substances, l'alcool ou la drogue, qui étaient impliqués dans 25 à 50% des suicides. Les personnes dépendantes à l'alcool ont un risque multiplié par 10 et ceux qui s'injectent des drogues par 14. Chez les adolescents, les comportements impulsifs liés aux substances augmentent fortement le risque. Il y a aussi les facteurs sociaux et économiques. En France, selon le Figaro Santé, plus de 30% des pensées suicidaires sont liées à des motifs professionnels, tout autant qu'aux enjeux familiaux à 41% et sentimentaux à 32%, en plus de la précarité économique et le chômage. Évidemment, bien sûr, l'isolement, la solitude, les ruptures, comme tu disais petit Manu. L'isolement social et la solitude sont cités comme première cause en France, selon la Santé publique France. Et les jeunes homosexuels sont 7 à 13 fois plus exposés aux risques suicidaires, souvent liés à la stigmatisation et l'exclusion. Les troubles provoqués par les maladies physiques chroniques ou la douleur, cancer, douleur chronique, blessures cérébrales, peuvent aussi peser lourd sur la décision suicidaire. Mais mettons-nous un instant à la place de ceux et celles qui souffrent. Parce qu'on a appris à sourire, même quand on a mal. Parce qu'on croit que demander de l'aide, c'est être faible. Parce qu'on pense que les autres ont déjà trop à gérer. Mais non. Ce n'est pas être faible que de tomber. Ce n'est pas honteux de ne pas aller bien. Et non, tu n'es pas un poids. Tu n'es pas seul. À toi qui écoutes peut-être en silence, si tu ressens un vide profond, une fatigue de vivre, une douleur qui ne passe pas, je veux te dire ceci. Tu n'as pas à tout porter seul. Tu n'as pas à aller bien pour être digne d'amour, d'attention, de soutien. Il existe des lieux, des voix, des mains tendues pour t'écouter, t'accompagner, t'aider à traverser. Ce n'est pas la fin. C'est un appel au secours et il est légitime. Et à toi qui va bien en ce moment, sois cette présence discrète, mais réelle, pose cette question simple et puissante. Comment tu vas vraiment ? Et sois prêt à écouter la réponse. Sans solution magique, juste avec ton cœur. Parce que parfois, ce sont les plus souriants, les plus présents pour les autres qui portent la plus grande peine. Ce n'est pas parce que tu traverses l'obscurité que la lumière a disparu. Elle est là. Peut-être discrète, peut-être vacillante, mais elle attend que tu la regardes à nouveau. Ta vie compte, ta voix compte. Et même si aujourd'hui tu ne le crois pas, il y a une suite à ton histoire. Peut-être différente de ce que tu imaginais, mais peut-être aussi plus belle que ce que tu peux entrevoir en ce moment. Je t'invite à prendre note de ce mantra dans tes moments de doute. Je choisis la vie, un souffle après l'autre. Je n'ai pas à tout comprendre pour avancer. Je suis digne d'aide, de soutien, d'amour, ici. Et maintenant.
Eh ben merci Ponari.
Ah,
Bravo, je peux vous faire plaisir. Autant je parle beaucoup, mais là je peux vous dire quelque chose. On était remplis d'émotions. Est-ce que je peux te faire un accompagnement? Bon, arrive, j'en bafouille. Et ben, tu sais ce qui manquait? Une musique.
La musique de
une
fou.
Une musique douce accompagnée. Oui. Franchement, c'est vrai, on se regardait.
Franchement, pas. Ponari, on dirait, voilà. On dirait ou un prêtre ou un pasteur.
Non, mais c'est ce que tu dois
ou
faire.
Ou un imam.
C'est un compliment.
Mais il y en a pas là, mais il y en a.
Ah, j'ai mais Ponari, c'est ce que tu devrais faire. Moi, je chante.
Pasteur, prêtre ou imam.
Non, non, pas du tout. Ponari, parce que.
Non, bouddhiste.
T'as un
trois
talent.
En même
temps. Tu sais, bien le 31-14.
Non, non, ce que tu devrais faire, t'as un talent. Tu devrais, parce que ça se passe en Afrique, tu devrais faire des contes, hein. Parce que qu'est-ce que t'en penses, Mio? Des contes? Parce que
c'est une bonne idée.
Ah, non, je te jure, je sais pas ce que t'en penses, Kevin, qui a
oui, mais pour raconter une histoire, des livres audio.
On était tous. Oui. Alors là, franchement, tu devrais faire des contes. T'as un dos, hein. Franchement, je sais pas ce que je dis dans l'émission, ouais. Mais alors là, autant j'ai pas envie de parler, on était tous émous, on a failli pleurer. Mais
merci,
franchement,
petit
ah, mais des beaux yeux, mais t'as un talent exceptionnel. Alors là, j'avoue, waouh. Alors là, là.
Est-ce que vous avez déjà été confrontée au suicide, Marie-Christine?
Dans ma famille, oui.
Oui.
Ma nièce était bipolaire et elle allait bien. Elle a fait 3 tentatives de suicide. Elle sortait de l'hôpital psychiatrique. Elle ressort en pleine forme et le lendemain pendue. 33 ans.
Oh là là. Ah et oui. T'as pas vu les signes d'alerte à part évidemment les autres tentatives.
Aucun, sauf qu'elle était quand même suivie psychiatriquement pour bipolarité et que c'était sa 3e tentative. Mais souvent on a un regard un peu badin avec ça. On se dit oh ben. C'est, si on en parle qu'on va se suicider, c'est qu'on va pas le faire, quoi.
Bah ouais.
Quelque chose comme ça.
Et Kevin?
Non, c'est des décès de maladie, malheureusement.
Moi, j'ai une amie qui a fait une tentative de suicide. Bon, on pense que c'était un geste désespéré, puisque, voilà, heureusement, elle va bien. Mais c'est qu'elle a appelé tout le monde et elle a envoyé un mail à tout le monde.
Ah ouais,
en disant, je vais le faire.
Ah ouais.
Mais elle l'a fait. Tentative.
Ah ouais.
Bon, elle s'en est sortie après, elle avait pris plein de médicaments. Et Ponari, t'as été confrontée à ça, toi?
Moi, j'ai accompagné une personne qui a fait une tentative de suicide. Et ce que j'ai remarqué, c'est vraiment un combat intérieur. Et en fait, il faut soutenir cette personne à chaque instant. C'est vraiment une présence dont elle a besoin pour tenir et pas lâcher, quoi, et pas s'abandonner. Donc, y a une véritable peur de confronter le monde. Et elle m'a beaucoup touchée et heureusement, elle va bien aujourd'hui.
Ah bah c'est le principe. Bon.
Et puisqu'on se dirige a priori vers la page culture, est-ce que vous savez que la première candidate de télé-réalité, enfin gagnante de télé-réalité française avec plusieurs tentatives de suicide, vous vous souvenez c'est qui? La première gagnante de télé-réalité française.
La blonde. Loana.
C'est ça, oui.
Et aussi, j'y pense aussi, tu parles de télé-réalité, bah, les jeunes que justement, qui sont gagnants, ils ont le succès, et ben, bah, le jour où ils tombent, maintenant, ils ont plus, ils rentrent dans leur village, ils ont plus de succès, et ben, bah, ils suicident, hein, parce qu'ils supportent pas.
C'était le cas de François Xavier, hein, un candidat de Secret Story.
Oui, oui, effectivement, il y en a beaucoup, ben, bah, parce qu'ils sont pas prêts, et ben, bah, ils suicident parce que ils supportent plus le fait de pas être célèbres, et il y en a beaucoup qui sont suicidés, malheureusement. Comme tu dis très bien, Kevin, quoi.
Allez, on continue cette émission sur le suicide sur IDFM Radio jusqu'à 22h. Avant d'ouvrir notre page culture pop avec Eric, musical avec Kevin et télévisuel avec Stanis, je vous propose d'écouter un titre issu du quiz de Kevin.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre un enfer, ces pensées qui nous font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité?
mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Et nous ouvrons notre page culture pop, musicale et télé. Le suicide est un sujet qui est loin d'être tabou chez les artistes. Certains sont d'ailleurs passés à l'acte, malheureusement. L'un des plus célèbres est...
Kurt Cobain.
Mais heureusement, d'autres artistes ont fait des chansons de prévention contre le suicide. Nous allons les découvrir dans le quiz de...
Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu, je vais me porter sur un truc.
Mais sautera.
Qu'ils aient eu des pensées suicidaires ou pas, le suicide est un thème qui touche profondément les artistes. Ils en ont profité pour faire passer des messages de prévention dans leurs chansons. C'est ce qu'a fait ce chanteur directement concerné par ce phénomène. Est-ce que vous l'avez reconnu?
Je suis pas tout seul à être tout seul.
Stromae.
Ah, c'est Stromae.
Stromae.
C'est Ponari qui a gagné.
Oui. Elle m'a devancé, c'est vrai.
Stromae, oui. Avec cette chanson intitulée, à votre avis, c'est pas Alors on danse. Hein.
Non.
C'est le contraire du paradis.
L'enfer.
Voilà. Chanson de 2022. Une chanson dans laquelle Stromae aborde à la fois la dépression, le mal-être psychologique et les pensées suicidaires. Dans cette chanson, il s'exprime à la première personne, il évoque ses pensées sombres et un isolement profond. Il dit dans la chanson le message suivant: j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier, on croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Et vous vous souvenez la première fois qu'il a chanté cette chanson, c'était où?
Je crois que c'était pas où il habitait, à Bruxelles, parce que je
pas,
crois que...
Pas tout à fait. Il avait fait une interprétation dans un plateau télé, c'était où?
C'était le journal.
Voilà.
Ah d'accord, journal.
Le journal de TF1 qui était présenté par...
Oh, bah,
une femme.
Oui, une présentatrice.
Il y a Claire dedans, pas Claire Chazal.
Claire.
Anne-Claire Coudray.
C'était d'ailleurs le grand retour de Stromae sur la scène médiatique à l'époque. Et il avait fait une mise en scène qui avait marqué les téléspectateurs, où en fait il a commencé à chanter juste après qu'Anne-Claire Coudray lui ait posé une question. Elle lui posait une question et lui il s'est mis à chanter la chanson et de manière totalement naturelle, quoi. Et conséquence, bah, y a eu plein d'appels au 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide.
On le rappelle.
Mais ouais, mais ouais. Et tu parlais de justement Stromae, parce que moi je suis curieux, j'en parlais avec ma femme, avec ma femme.
Pas mariée.
Non, j'en parlais avec ma mère. Oh, non, pas avec ma femme, avec ma, non, je suis pas mariée, avec ma mère. Non, je suis pas mariée. Non, j'ai dit avec ma mère. Et ce qu'il disait, est-ce que non, je suis pas mariée. Non, ce que je voulais simplement dire, que il a eu des problèmes. Maintenant, il est non, parce que je parlais de marié, parce qu'il est marié et il est venu papa. Et je crois que sa femme est dans la couture et il a dû arrêter. Et ma mère me disait qu'il avait des problèmes, c'est pour ça que je parlais de femmes, c'est parce qu'il s'est marié et ça va beaucoup mieux. Pas moi, mais je parlais de Stromae, c'est pour ça. Et Manu, il a dû arrêter, maintenant ça va beaucoup mieux, il ressentait le besoin d'arrêter.
Merci Manu. On passe maintenant à un groupe.
Elle est trop belle.
R.E.M.
Yes, R.E.M.
Everybody
Hurts.
Voilà. Ah, non, non, non. Ah, t'étais presque, Didier.
Oh. C'est pas Everybody Hurts.
Yes.
Ah, oh, voilà. Moi, je pensais à l'autre.
Chanson l'une des plus célèbres de R.E.M. Everybody Hurts, une chanson de sortie en 1993, inclus dans leur album Automatic for the People, sorti en 1992. Et c'est une chanson qui est un hymne universel de réconfort et de prévention au suicide. Cette chanson a même été utilisée dans des campagnes de prévention, notamment par des associations en santé mentale ou même dans des événements de deuil collectif. Et c'est une chanson qui est considérée comme thérapeutique. Je propose qu'on écoute un extrait.
It's time to sing along when your day is night. Hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, hang on. Everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts.
Et on passe maintenant à trois artistes américains, notamment un rappeur.
I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine.
Alors c'est, il s'agit d'un rappeur américain qui s'appelle Logic. Et il chante en duo avec Alessia Cara et Khalid. Et cette chanson, c'est porte un numéro, je vais le dire en français. C'est 1-800-273-82-55. Vous savez c'est quoi ce numéro?
Non, ça veut dire quoi?
En fait, c'est le numéro de la ligne nationale de prévention du suicide aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est devenu 988. Cette chanson elle est sortie en 2017. C'est une chanson qui raconte l'histoire d'une personne en pleine crise suicidaire, puis son cheminement vers l'espoir et la reconstruction. Une chanson dans laquelle l'artiste principal, Logic, interprète une personne qui veut mettre fin à ses jours. Il décrit à la fois la souffrance, l'isolement et le sentiment d'inutilité. Je vous propose qu'on écoute un extrait.
I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive.
Et on termine avec un chanteur.
Remplis le vide de mes souvenirs quand j'aurais dû oublier.
C'est pas Zaz?
Non, c'est ça un garçon.
Ah bon, je pensais à Zaz et à chanteur.
C'est un Zaz.
Zaz. Il ressemble à voir.
C'est un jeune chanteur canadien. Bon, sa voix, elle a un peu changé maintenant parce qu'il a 23 ans, mais cette chanson, elle date d'il y a quelques années. C'est, je pense que vous connaissez Lenny Kim, que j'avais déjà rencontré en interview il y a quelques années, il y a plus de 6 ans.
Ah ouais,
et cette chanson s'intitule « Pourquoi tout perdre ?». Le titre est quand même assez révélateur, quoi.
Ouais, c'est...
Je vous propose qu'on écoute le refrain.
Tu fais la peine que je récré.
Je raconte. Alors, pourquoi tout perdre de Lenny Kim? C'est une chanson qui aborde avec sensibilité le thème du suicide chez les adolescents et les jeunes victimes de harcèlement scolaire. Parce que le suicide, c'est pas que les adultes, hein, c'est aussi les enfants, les ados, hein, malgré leur jeune âge. Et cette chanson, c'est à la fois un cri d'alerte et une main tendue. Le jeune artiste Lenny Kim s'adresse à la fois à ceux qui souffrent en silence pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a de l'espoir, même au fond du désespoir. N'est-ce pas, Ponari ?
Mais oui, tout à fait.
Et il y a une chanson que tu évoquais, Marie-Christine.
Ah oui, j'adore. Stone, le monde est Stone. Alors après, c'est
de l'interprète.
Ah oui, Michel Berger, non ?
Je crois qu'il y a eu plusieurs versions.
Il y a eu plusieurs versions.
Il y a aussi la version de Garou.
Ah oui, de Garou. Ah, oui,
il parle pas de suicide, non, Stone, le monde est Stone.
Non, il parle de la mort.
De la mort.
De la mort, ouais. En général.
Et c'est curieux, tu parlais de harcèlement scolaire, il y a un autre chanteur qui en a parlé, être au mauvais endroit, Calogero. Eh ben, il a fait
une chanson. On a fait une émission spéciale sur le harcèlement scolaire.
Exactement.
Ça m'a Donc ça vous fait... retrouvez le lien sur Big Bang.
Bangstation.fr. Évidemment, il faut rappeler.
Merci à tous.
Eh ben, merci Kevin. On va écouter un titre en entier.
Eh bien, moi, je vous propose d'écouter Here I Am, Everybody Hurts.
Yours alone. Sometimes everybody hurts. Sometimes just hold on, hold on, hold on, hold on,
everybody hurts.
On continue à parler de suicide sur IDFM Radio avec l'angle série télé. Mmh. Nombreux sont les films à traiter de façon plus ou moins directe le sujet délicat du suicide. De The Virgin Suicide en 1999 de Sofia
Coppola
avec Kirsten Dunst, dans lequel, après le suicide de leur plus jeune fille, des parents surprotecteurs tentent d'enfermer les autres dans un cocon. À Adieu les cons de 2020, de et avec Albert
Dupontel,
en cadre supérieur qui tente de mettre fin à ses jours au bureau après un échec professionnel, ou encore The Hours, 2022, de Stephen Daldry avec Nicole
Kidman.
Bravo. Oscarisé pour son interprétation de l'écrivaine britannique Virginia
Woolf.
Oh, bravo. Qui finit par se suicider en 1941. Rôle pour lequel l'actrice a d'ailleurs admis avoir souffert de dépression, se qualifiant elle-même de récipient ouvert aux pensées suicidaires de son personnage. Perte d'emploi, chagrin d'amour, deuil, solitude, harcèlement. Chacun aborde à sa manière les raisons qui peuvent pousser à l'acte, le désespoir de ceux qui mettent ou qui tentent de mettre fin à leur jour, et surtout à leur souffrance, mais aussi les méthodes utilisées, les réactions et les conséquences sur l'entourage, ou encore les solutions pour remonter la pente ou chasser les idées noires. Et sur le petit écran, quelle représentation du suicide dans les séries ? Stanis est penché sur la question.
Comment est abordé le thème de l'émission sur le petit écran ?
Je vous dis à plus les séries-vores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Enquête de Stani.
Ah, notre Stéphie, elle est jolie. D'où tu viens ?
C'est Stani.
Stani, on t'encourage. Stéphie, Stani, Stéphanie, qui est si jolie.
Si les fictions sont nombreuses à intégrer le sujet délicat du suicide dans leur scénario, deux séries se distinguent particulièrement. La première est une série culte et une de mes préférées, déjà évoquée dans Big Bang pour d'autres thèmes, et une série qui démarre fort avec le suicide du personnage de Mary-Alice Young, interprétée par Brenda Strong, d'une balle dans la tête dès le début de l'épisode pilote. Narratrice omnisciente du feuilleton, Mary-Alice commente ensuite en voix off, venue d'outre-tombe, la multitude d'intrigues de la vie de ses voisines et amies de Wisteria Lane à l'aide d'une morale en intro et en conclusion de chaque épisode. Vous avez trouvé ? C'est bien sûr Desperate Housewives, la sitcom succès mondial de Mark Sherry sur le quotidien pas si paisible de femmes au foyer dans une banlieue chic, stéréotype des quartiers pavillonnaires résidentiels des classes aisées américaines. 8 saisons, 180 épisodes de 42 minutes de 2004 à 2012 sur le réseau ABC, puis chez nous dès 2006 sur les chaînes du groupe M6, actuellement dispo sur Disney+. Connue pour avoir contribué au renouveau de la fiction télé contemporaine et au dépoussiérage du soap, la série nous entraîne dans le quotidien mouvementé de 4 femmes. Susan Mayer, interprétée par Terry Hatcher, Lynette Scavo, jouée par Felicity Huffman, Brie Van de Kamp, sous les traits de Marcia Cross, et enfin Gabrielle Solis, interprétée par Eva Longoria. 4 habitantes de Wisteria Lane, une banlieue chic de Fairview où les apparences sont souvent trompeuses. Les 4 héroïnes sont d'entrée confrontées au suicide de leur voisine et amie Mary-Alice Young, une mère de famille mariée, présentée comme attachante, amicale et particulièrement généreuse, qui semblait mener une vie tranquille et heureuse. Personne ne se serait donc douté que que Marie-Alice puisse commettre l'irréparable. Et pourtant, un geste qui laisse ses quatre amis dans la stupéfaction la plus totale et pleine d'interrogations, bien décidés à résoudre le mystère et à comprendre les raisons qui l'ont poussé à en arriver là. Notamment après avoir découvert une lettre de chantage adressée à Marie-Alice, cachée dans ses affaires, que son véritable nom était en fait Angela Forrest et son implication dans une affaire de bébé disparu. Au récit des mésaventures quotidiennes des Desperate Housewives se mêle donc une intrigue policière amenant à comprendre pourquoi Marie-Alice en est venue à mettre fin à ses jours. Mais en plus d'en être l'élément déclencheur, le suicide est un thème récurrent dans la série puisqu'on le retrouve à plusieurs autres moments. Entre réelle volonté de mettre fin à sa souffrance, tentative mise en scène, chantage au suicide pour attirer l'attention ou encore meurtre maquillé, plusieurs personnages principaux comme secondaires y sont à un moment donné confrontés au fil des saisons. Si à son époque Desperate Housewives n'avait pas provoqué de réaction particulière quant à sa représentation du suicide, une série plus récente a en revanche suscité une controverse liée à son impact chez les plus jeunes et a réactivé le débat. Il s'agit de 13 Reasons Why, série dramatique adaptée du roman de l'écrivain américain Jay Asher, produite par l'actrice et chanteuse Selena Gomez. 4 saisons, 49 épisodes d'environ 1 heure entre 2017 et 2020 à retrouver sur Netflix. Alors que le lycée est endeuillé par le suicide d'une élève, Anna Baker, son amie Claire Jensen reçoit dans une mystérieuse boîte déposée sous son porche des cassettes enregistrées par la jeune femme dont il était amoureux avant sa mort 2 semaines plus tôt. Clay se retrouve alors au centre d'une série de secrets déchirants qui prennent une tournure tragique. « Je vais vous raconter l'histoire de ma vie, plus particulièrement pourquoi elle s'est terminée », explique Anna dans chacune des 13 cassettes correspondant aux 13 raisons expliquant son geste. Le jeune homme est-il une de ces raisons ? Une série pas spécialement destinée aux ados à la base, à laquelle Netflix avait d'ailleurs associé le label TVMA, comprendre audience mature, indiquant un contenu pouvant être inapproprié aux mineurs de moins de 17 ans, ainsi qu'un avertissement avant le début du visionnage de la série et aussi avant les 3 épisodes les plus marquants. Pourtant, 13 Reasons Why est rapidement devenu un phénomène auprès du jeune public après sa mise en ligne en 2017. Et suite à cet engouement, la série a, comme je vous le disais, suscité une controverse liée à sa représentation du suicide et son impact chez les jeunes, au point de contraindre la plateforme à insérer un avertissement au début de chacun des épisodes et pas seulement de certains. Malgré ces précautions, plusieurs associations américaines comme la NASP, l'Association nationale des psychologues scolaires, se sont inquiétées de l'influence de cette série sur les jeunes fragiles, notamment après une hausse des tentatives de suicide constatées dans certaines écoles américaines suite à la diffusion de la série. Et selon une étude publiée dans la revue américaine Psychiatric Service en 2018, une proportion significative d'adolescents à tendance suicidaire traités dans un service d'urgence psychiatrique a déclaré qu'avoir regardé 13 Reasons Why avait accru leur risque de suicide. Suivant l'avis d'experts médicaux, notamment en lien avec la Fondation américaine pour la prévention du suicide, 2 ans après la sortie de la série sur Netflix, la scène du suicide de Anna dans la première saison a donc carrément été supprimée. Pourtant, paradoxalement, si les mots-clés avec le mot « suicide » recherchés sur différents moteurs de recherche ont statistiquement augmenté, c'est aussi le cas pour les mots « prévention » du suicide. En tout cas, pour mettre un terme à cette polémique, les producteurs ont inséré des ressources d'aide téléphonique dans chaque épisode de la seconde saison. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, impact positif ou négatif des fictions et de leur représentation du suicide sur le public, et particulièrement chez les jeunes et les personnes fragiles? Augmentation du nombre de suicides par effet d'imitation, ou au contraire réduction de passage à l'acte par la recherche de soutien approprié? Difficile de savoir vraiment, comme pour de nombreux autres thèmes délicats d'ailleurs. Tabac, alcool et autres drogues, violence, sexe, viol, inceste. Une chose est sûre, pour le bien-être, la santé mentale et la prévention, il est souvent bon d'ouvrir le débat et de parler des choses plutôt que de les taire et de les garder pour soi. C'est sur cette réflexion que je vous dis à plus les sérivores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Merci Stani. On termine cette émission par de la culture.
Eh ben, au 7e art.
Pop. Dans les œuvres de la pop culture, le suicide est évoqué de différentes manières. Cet acte peut être illustré par le biais de la mythologie sous forme de métaphore, ou encore de manière plus abrupte, comme le harikiri. Je ne demanderai pas ce que c'est à petit manière.
Oh là là, ça c'est quelque chose d'horrible. Oh là là, hein ?
Harakiri.
Exactement.
Tu connais que comme moi le kiri.
Ah, pas du tout.
On mange.
Pas du tout, c'est les Asiatiques, c'est une façon de faire, une façon de te donner la mort. Ils ne vont pas de ma mort d'ailleurs, pour faire le résumé.
Les personnages dits kamikazes, que cela par amour ou par sacrifice, le suicide dans la pop culture n'est que très rarement gratuit, comme va nous l'expliquer Eric. Retrouvez la nouvelle chronique d'Eric.
Ah, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique autour de la culture pop.
Une culture pop, Jets. Pop, 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 pop.
pop, 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 boum, 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 boum.
L'arrivée de nouvelles figurines pop, plus connues sous le nom de Funko Pop. Vous savez ces figurines en vinyle avec une grosse tête et un petit corps?
Il va nous aider, Eric. Oh là 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 là.
Au Japon, à l'époque des samouraïs, existait un acte de suicide qui s'appelait le harakiri. Plus connu sous le nom de seppuku, cela consistait à s'ouvrir le ventre pour se donner la mort pour diverses raisons. Mourir en montant son maître, par honneur, payé pour un crime, entre autres. On le trouve dans pas mal d'œuvres de la pop culture. Mais on peut noter que cette pratique ne se fait plus depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce suicide inspire beaucoup de mangas, comme par exemple un dessin animé manga culte, Saint Seiya, connu en France par le nom des Chevaliers du Zodiac. Dans ce manga, qui raconte l'histoire de jeunes gens prétendant la réincarnation de la déesse Athéna, il est question de code d'honneur comme à l'époque féodale des samouraïs. L'œuvre évoque les armures, mais aussi la notion de maître. Tout au long de la saga, on retrouve des actes de suicide. On reste au Japon pour évoquer les sacrifices volontaires dans un intense suicide que l'on connaît sous le nom de kamikaze. Ce nom désigne à l'origine un pilote de l'aéronavale navale ou de l'armée de l'air japonaise à l'époque de la guerre du Pacifique qui effectuait une mission suicide. La guerre du Pacifique, je le rappelle brièvement, c'est l'affrontement entre les alliés et l'empire du Japon en 1941 en Asie-Pacifique. On se rappellera à ce sujet du film culte américain Pearl Harbor, réalisé par Michael Bay, sorti en 2001 avec comme acteurs Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale ou encore Alec Baldwin. Le film évoque plusieurs événements de la Seconde Guerre mondiale, dont l'attaque de Pearl Harbor, qualifiée d'attaque surprise, menée par les forces aéronavales japonaises le 7 décembre 1941 contre la base navale de Pearl Harbor, située sur l'île d'Oahu à Hawaï. D'autres films évoquent cet acte de manière moins historique, mais plus fictive. Prenons l'exemple de Star Wars épisode 9, Les Derniers Jedi, qui fait état d'une kamikaze par exemple. La vice-amirale Amilyn Holdo enclenche dans cet épisode la vitesse lumière en direction du vaisseau ennemi pour le détruire. Dans les contes populaires, le suicide est aussi présent sous d'autres formes. Dans le conte La Petite Sirène de Christian Andersen, paru en 1837, dont la version la plus connue est celle de Disney, l'histoire est un peu plus dure quand même. D'abord, la sirène souhaite rejoindre le monde des hommes car ils sont les seuls à avoir une âme après leur mort. Les sirènes ont beau vivre plus longtemps, elles en sont dépourvues. La sorcière permet à la sirène de rejoindre la terre en échange de sa langue et une condition sine qua non, épouser un homme qui l'aime. Dans le cas contraire, elle se transformerait en écume de mer. En buvant un filtre, elle a des jambes et rencontre le prince. Sauf que le prince épousa finalement une autre. Et la sirène se jette à la mer, voulant mettre un terme à son existence. Elle rejoint un autre monde, celui de l'air. Le suicide ici est vu sous différentes formes. On a d'abord une première conséquence de l'acte, de sirène à humaine, puis une seconde, d'humaine à fille de l'air. Le passage d'un monde à un autre est marqué par une forme métaphorique de suicide. Et à propos de métaphore, on pourrait parler de l'exemple, encore une fois à Star Wars, du personnage d'Obi-Wan Kenobi, dont certains rejettent l'hypothèse du suicide. Rappelez-vous, dans Star Wars épisode 4, le maître Jedi se dresse contre Dark Vador et se laisse tuer par celui-ci. Il disparaît ainsi sous les yeux impuissants de Luke Skywalker. C'est une opération suicide qu'Obi-Wan a mis en œuvre dans le but d'accéder à une voie au-delà de la mort. Dans les œuvres de la pop culture, les suicides découlent des sacrifices, mais nous pouvons aussi en trouver qui découlent directement de la dépression, encore du harcèlement, et bon nombre pour servir comme outil de sensibilisation. Amis de la pop culture, on se retrouve à la prochaine chronique, et en attendant, portez-vous bien.
Merci Eric. Et on repart en musique, Kevin, avant de se quitter.
Eh bien moi, je vous propose d'écouter Lenny Kim, Pourquoi tout perdre ?
De mes souvenirs, quand j'aurais dû oublier, on oublie de s'oublier. Les mirages étrangers, je plane quand je revois ce sourire. Mais les nuages partent en fumée, et dans la brume, tout va s'éclipser.
Non, ça ne me suffit plus, les souvenirs ne me suffisent plus. Plus on se cherche, plus on s'éloigne, tout en le néant de long en large. Oh, où que j'ai attendu, qu'on aille où on ne s'est pas rendu. Vive les jours qui nous sont tués, yeah.
Tout est passé,
et je ne dois pas nous écarter.
Pour vous sourire
travers mon silence ne fait que détruire mon parcours. On vit la nuit pour se mettre un jour hors de moi. Je compte sur l'autre moitié de mon existence. Ne pas oublier ce qui m'entoure. Tu m'attendras, c'est à ton tour.
Ça ne me suffit plus. Les souvenirs ne me suffisent plus. Plus on se cherche, plus on s'éloigne. Je sens le néant de long en large. Oh, où que j'ai attendu. Qu'on aille où on ne s'est pas vendu. Pour revivre les jours qui nous sont tués, yeah. Peine que j'aurais créé, on vous serait toujours là pour moi. Tout est together, le temps pourra tout effacer. Les chemins ne doivent pas nous écarter. On vous serait toujours là pour moi. Tout est together.
Lenny Kim, pourquoi tout perdre?
Et cette émission sur le suicide, c'est déjà fini.
Dis-moi, je pense à deux personnes qui sont suicidées. Malheureusement, le regretté Patrick Devers, un comédien, et il travaillait à l'Eurovision, l'animateur Philippe Vicky, qui travaillait à l'Eurovision, collègue Alexandre Devois, que je dis un petit coucou amical. Eh ben, ils sont partis, ils nous manquent beaucoup, et ben, ils avaient des bonnes raisons.
Et le fils de Depardieu aussi.
Ah oui, tout à fait. Guillaume aussi, le fils de Gérard Depardieu, effectivement.
Il y en a d'autres.
Il n'y a pas, hein, c'est le 31-14 pour des idées suicidaires et puis aussi les proches. Hein, si vous voyez quelqu'un qui a des idées suicidaires, n'hésitez pas à appeler le 31-14. Si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste sur bigbangstation.fr. On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite un proverbe de Guy de Maupassant. Le suicide, mais c'est la force de ceux qui n'en ont plus. C'est l'espoir de ceux qui ne croient plus. C'est le sublime courage des vaincus.
Salut à toutes et à tous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau thème.
Eh ben, on va se donner la semaine prochaine. On a une semaine pour travailler.
T'as pas commencé?
La journée. Sans.
Ce que t'as pas?
Sans voiture. Ah oui, sans voiture. Eh ben oui, ça arrive. Et je crois que ça joue.
Ça aurait pu être aussi la journée sans pantalon.
Oui, oui. Et je crois que c'est même un dimanche.
Manu n'a ni l'un ni l'autre.
Non, si. Une fois, j'avais été à Châtelet. Et c'est vrai. Une fois, j'avais été à Châtelet. Et j'avais même demandé pourquoi on ne conduisait pas. Et à partir de 13h, on avait conduit. C'est vrai. Une fois, j'avais vécu ça. Eh ben, c'est la journée sans voiture. On vous en parlera la semaine prochaine.
Salut à tous.
Encore bravo, chapeau.
Okay, let's stop.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure et Agnès en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur, théâtre, littérature, musique, sorties. Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous invite à découvrir Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture sur IDFM Radio. Quand la salle de spectacle se vide et que le théâtre s'endort, saviez-vous qu'il reste une petite lumière qui brille ? c'est celle de la servante. Elle veille, surveille, jusqu'au prochain réveil. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, font vivre la culture. Artistes, auteurs, techniciens, experts ou acteurs du secteur. Chaque semaine, la servante nous livre ses secrets, éclaire l'actualité et anime les coulisses du spectacle vivant. Alors rendez-vous tous les samedis à 16h sur IDFM Radio.
Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanches du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanches du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanches du mois sur IDFM Radio.